Nous sommes cet après-midi toujours dans notre série « Une vie de prière renouvelée ». Et la semaine dernière, vous vous en souviendrez peut-être, nous parlions de cette vie de prière par l'Esprit. Prière par l'Esprit qui commence d'abord à prier dans l'Esprit, une communion avec l'Esprit, une prière avec l'Esprit, dans la direction de l'Esprit. Et nous nous étions arrêtés sur un point particulier de ces prières par l'Esprit qui sont les dons spirituels. Et c'est ce thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui et dans 15 jours, Dieu voulant, ce thème des dons spirituels. Un thème très important parce qu'une vie de prière renouvelée passe aussi par cette dimension charismatique, cette dimension prophétique dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. Alors je vous propose d'ouvrir ensemble nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 39. Et 40, 1 Corinthiens 14, 39, 40, c'est les versets de conclusion d'un grand passage de trois chapitres, 12, 13, 14, pendant lesquels Paul va enseigner l'Église de Corinthe, mais l'Église universelle aussi, dans ce sujet si important des dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 14, 39, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Les dons spirituels sont des grâces de Dieu. Les dons spirituels peuvent se manifester dans notre vie privée. Dieu nous parle à travers des paroles de connaissance, de sagesse. Il nous montre des choses cachées, il nous montre des orientations. Dieu nous parle à travers des pensées. Il nous parle à travers des visions, à travers des songes. Il nous communique des dons de foi pour que nous puissions croire dans les choses qu'il place devant nous. Ils sont importants dans notre vie privée, mais ils ont une place très importante aussi dans le culte public. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 14 de la première aux Corinthiens, a soin de nous montrer quelle est leur place et comment ils doivent se manifester d'une manière adéquate dans nos cultes, dans nos assemblées. Les dons spirituels font partie de la vie de l'Église et de son ministère de prière. Ils font partie de l'héritage, de l'enseignement des apôtres et aussi de nos pères. Et encore aujourd'hui, ils ont pleinement leur place dans nos assemblées. Et nous avons besoin de les entendre avec la même régularité, avec la même qualité, avec la même puissance qu'il y a encore quelques années. Nous ne pouvons pas nous permettre de placer les dons spirituels parmi les belles choses du passé dont nous aurions perdu le mode d'emploi aujourd'hui. Alors je l'ai dit, ce thème sur les dons spirituels va être abordé en deux messages. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à régler les questions concernant leur fonctionnement dans l'Église et surtout à voir comment l'Église peut être un lieu favorable à la manifestation des dons de l'Esprit. Et dans 15 jours, nous verrons cette parole que nous adresse Paul. Nous pouvons tous prophétiser, car Dieu cherche dans son Église des prophètes par lesquels il pourra manifester les dons de l'Esprit. Alors si nous revenons tout d'abord à la source, au temps de l'Église des apôtres dans le Nouveau Testament, nous constatons que le Nouveau Testament, que ce soit les Actes, les Épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, Thessaloniciens et l'Épître aux Hébreux, font référence fréquemment aux dons de l'Esprit. Ils étaient manifestés régulièrement dans ces temps-là. Par le moyen de dons spirituels exercés dans la foi, les malades étaient guéris. Les possédés étaient délivrés, les imposteurs démasqués et même des morts ressuscités par la puissance de ces dons. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2, verset 4, que Dieu appuyait le témoignage, la prédication des apôtres par les dons spirituels. La Bible dit aussi que les dons spirituels sont des signes. Dieu donne ces dons spirituels comme des signes pour manifester sa présence et son désir d'agir en conformité avec la parole qui a été annoncée. Dieu appuie, Dieu renforce la prédication de la parole par les dons spirituels qu'il accorde. dans les cultes du Nouveau Testament, beaucoup exerçaient le don des langues. D'autres les interprétaient, d'autres prophétisaient. Nous voyons aussi que beaucoup priaient et chantaient même dans des langues, et d'autres le faisaient dans leur langue maternelle. Et tout ceci se passait selon l'inspiration du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que, au moins dans le cas d'une église, celle de Corinthe, cette activité spirituelle avait conduit à quelques débordements. Il y avait un surplus qui avait besoin d'être canalisé, un certain désordre que Paul veut rétablir, réajuster les choses, non pas dans un désir de contenir, non pas dans un désir de fermer, mais dans un désir de donner une base stable à la manifestation des dons spirituels. De nos jours, les dons spirituels demeurent des manifestations uniques et nécessaires du Saint-Esprit dans l'Église pour notre plus grande bénédiction. Ils sont des grâces de Dieu dont nous aurons tort de nous passer. Nous avons besoin de la prédication de la parole. Mais il a plu à Dieu aussi de nous encourager, de nous édifier à travers les dons de l'Esprit. Malgré l'enseignement de la Bible, malgré un siècle de réveil de Pentecôte, nous constatons encore des ignorances. Paul dit dans 1 Corinthiens 12:1 au sujet de ces chrétiens de Corinthe qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Ces chrétiens de Corinthe étaient des chrétiens de Pentecôte. Les dons spirituels se manifestaient. Pourtant, il leur dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Il y a donc des choses qu'ils ne comprenaient pas bien. Et je crois que nous avons beau être, nous aussi, des églises de Pentecôte, mais il reste encore de l'ignorance concernant la manifestation, le fonctionnement et le but, l'utilité des dons de l'Esprit. Et tout cela, cette ignorance, j'en suis convaincu, conduit à un déclin. À un déclin dans la qualité des dons de l'Esprit, à un déclin dans la puissance, dans la régularité de la manifestation de l'Esprit dans beaucoup d'églises. Et puis aussi, dans la jeune génération qui a besoin de retrouver cette vie de l'Esprit, cette puissance de l'Esprit. Alors aujourd'hui, les dons spirituels sont parfois perçus comme réservés à certaines personnes, les pasteurs, les anciens ou quelques personnes très spirituelles dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Nous l'avons dit, Paul écrit, vous pouvez tous prophétiser. Nous sommes tous concernés. Il arrive très fréquemment aussi qu'on ne sache pas comment les manifester. Ou alors, on n'ose pas les manifester. Par crainte de se tromper, par crainte d'être jugé, ou par crainte tout simplement. Et parfois, on ne sait même plus quelle place donner aux dons spirituels. On n'arrive même plus à donner une place aux dons spirituels dans nos assemblées. Mais tout cela, ce n'est pas le plan de Dieu. Car je crois que l'Église, que l'assemblée que nous formons est le lieu favorable, le lieu propice aux manifestations des dons du Saint-Esprit. L'Église n'est-elle pas le temple du Saint-Esprit ? L'Église n'est-elle pas un lieu d'habitation pour l'Esprit ? C'est un lieu où le Saint-Esprit veut agir d'une manière particulière. L'apôtre Paul disait à l'Église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, que cette Église avait été comblée des richesses concernant la parole et la connaissance et qu'il ne manquait à cette Église aucun don. Je suis convaincu de quelque chose, c'est que Dieu veut combler toutes ces églises. Partout où l'on prêche l'évangile de Jésus-Christ, partout où l'on croit dans la manifestation du Saint-Esprit, dans la Pentecôte, Dieu veut combler ses églises de ses dons. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème n'est pas un manque de prophétie. Je dirais que le problème est plutôt un manque de prophètes dans les églises pour manifester les prophéties. Mais dans notre assemblée, comme dans toutes les assemblées où l'on croit dans la parole de Dieu, il y a là des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de discernement des esprits, des dons de puissance, des dons d'inspiration que Dieu veut manifester lorsqu'il trouve un prophète dans son église. Je dirais en quelque sorte que beaucoup aiment entendre, mais beaucoup moins aiment parler. Seigneur, parle-moi au travers d'un don. Mais pourquoi ne pas dire, Seigneur, dimanche prochain, je voudrais pouvoir parler. Non pas pour me mettre en avant, mais parce que, Seigneur, je désire bénir l'Église. Je désire être un canal du Saint-Esprit. Alors revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit pour que tu puisses m'utiliser comme tu le veux. Alléluia. Dans deux de ses lettres, l'apôtre Paul nous place face à des situations extrêmes concernant les dons spirituels. Nous avons tout d'abord l'église de Corinthe. Alors dans l'église de Corinthe, existe une certaine anarchie dans l'exercice des dons spirituels. Certes, ils sont manifestés dans leur diversité, ils sont manifestés en abondance, mais le but n'est pas atteint. Le but n'est pas atteint, c'est-à-dire que l'édification de l'Église ne se fait pas. Un don spirituel a un but. Il est là pour donc exhorter, édifier, consoler ou révéler les pensées du cœur. Mais à cause de l'anarchie qu'il y avait à Corinthe, où parfois il y avait un esprit de surenchère et on n'avait même pas le temps de finir un don qu'un autre commençait, à cause de ce cafouillage en quelque sorte, eh bien, personne n'était béni, n'était réellement enrichi des dons de l'Esprit. Alors Paul va essayer de remettre les choses en ordre. C'est ce que nous avons lu dans ce passage d'introduction. Il va leur dire que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance. Mais en remettant un peu de discipline, l'apôtre Paul n'est pas en train d'enfermer les Corinthiens dans une règle à suivre, parce qu'il commence par leur dire « n'empêchez pas ». Ça, c'est la première chose. N'empêchez pas. On ne peut pas enfermer l'action du Saint-Esprit. Mais par contre, on peut poser de bonnes bases bibliques qui vont favoriser la manifestation des dons spirituels. Ça, c'est l'église de Corinthe. Moi, j'aime l'église de Corinthe. Aimez-vous l'église de Corinthe? Ça ne me dérange pas, cette église de Corinthe. C'est un peu l'église de Pentecôte. Un peu l'église de Pentecôte, comme il y a encore au début du réveil, cette effervescence. Et il y avait peut-être besoin d'un peu d'enseignement, mais c'était tellement merveilleux. Et puis, vous avez une autre église, qui est l'église de Thessalonique. Et là, le message est différent. À cette église de Thessalonique, Paul va dire « Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas le Saint-Esprit. » On est complètement à l'opposé. À Thessalonique, ce n'est pas un problème de surabondance, ce n'est pas un problème de désordre, mais c'est un problème de méfiance. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Peut-être que des personnes ont été heurtées, choquées, troublées par des paroles qui ont été mal exprimées. Et à cause de cela, une méfiance s'était développée. Corinthe, c'est donc un extrême. Thessalonique, c'est un autre extrême. Mais la parole de Dieu nous situe un cadre entre les deux. Un cadre qui est un cadre biblique pour la bonne manifestation des dons spirituels. Nous ne voulons pas aller dans l'extravagance qui ouvre les portes à toutes sortes de mysticisme, d'anarchie. Et l'histoire de l'Église et de ces dernières années est pleine de toutes sortes de choses, d'événements, de phénomènes qui ont beaucoup plus troublé la foi des chrétiens que les a édifiés. Nous n'avons pas besoin d'extravagance. Mais en même temps, nous devons refuser la méfiance qui conduit au mépris. Et ça, c'est un souci. C'est un souci parce que je crois que de plus en plus d'églises et d'églises de Pentecôte ont glissé de cette position corinthienne pour en arriver à cette position thessalonicienne, en quelque sorte. Et les années passées, les générations passant, il y a comme un sentiment, peut-être, de doute. Un sentiment de méfiance. On se tient dans l'expectative, un don spirituel. pense que c'est parfois lié, c'est vrai, à des mauvais emplois, des dons de l'esprit, à des choses qui ont été dites mal à propos, à des formes mal appropriées elles aussi. Mais pour autant, nous ne pouvons pas nous dispenser des dons de l'esprit. À force de développer des pensées de doute, des pensées de méfiance, nous finissons par attrister le Saint-Esprit. Et nous pouvons même arriver dans des situations où nous allons éteindre le Saint-Esprit. Et je ne le veux pas, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas éteindre le Saint-Esprit. Mais Paul nous met en garde, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le doute, le mépris à l'égard des prophéties. Oh, encore une parole. Oh, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Peut éteindre le Saint-Esprit. Et je pense à cette parole de Jésus dans les Éphésiens, dans l'Apocalypse, dans cette lettre à l'église d'Éphèse, qu'il met en garde contre le risque qu'il lui enlève son chandelier. Ne perdons pas la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit. Alors, je pense que ce que Paul voulait, c'est nous donner une bonne connaissance. Il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il ne veut pas que nous allions d'un extrême à un autre extrême. Mais il veut que nous trouvions ce juste équilibre biblique. L'Église est le lieu favorable à la bonne manifestation des dons de l'Esprit. Mais pour cela, il convient de deux choses. Il convient premièrement que l'Église soit comme un cadre rassurant, nous gardant de dérives, d'exagérations, de fanatismes touchant au mysticisme ou à l'anarchie. La vie de l'Esprit, ce n'est pas du n'importe quoi. Et dans nos Églises, nous avons besoin d'être rassurés quant aux choses spirituelles. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, nous invite à examiner ce qui se passe, à éprouver les esprits. Il nous faut cette stabilité, cet enracinement dans la parole de Dieu. Un cadre rassurant. Et ce cadre rassurant passe par deux principes. Premièrement, un principe de prévenance ou de précaution. Paul énonce ce principe de prévenance à l'égard du parler en langue dans l'Église. Lorsqu'il va dire dans 1 Corinthiens 14, 23, « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, comme nous aujourd'hui, tous parlent en langue, imaginez la chose, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, c'est-à-dire quelques personnes se promenant dans la rue et rentrant au milieu de nous, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? » Imaginez donc la situation. Et Paul nous dit donc, à l'égard de ceux qui pourraient venir de l'extérieur, vous n'allez pas user de cette grâce que vous pouvez manifester dans votre culte privé, vous allez préférer au parler en langue quelques paroles pour nous en français qui vont édifier la foi de ceux qui sont là pour la première fois ou pour les premières fois au milieu de nous. Mais il est évident que si nous entendons tous parler en langue, on pourrait le faire. Il nous arrive de le faire lorsque nous sommes dans des groupes de prière. Mais si quelqu'un vient là et qu'il nous entend ainsi, il va dire « Mais où suis-je tombé ?» C'est ça le principe de prévenance, le principe de précaution. Et en même temps, concernant les dons spirituels, les prophéties ou autres dons encore, comprenons que nous ne pouvons pas dire que parce que nous sommes animés de l'Esprit-Saint, nous allons avoir toutes sortes de comportements déplacés. Je suis conscient qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont là peut-être pour la première fois. Et je ne dois pas choquer, je ne dois pas perturber, je ne dois pas troubler par mes paroles ou par mes actions. Ce qui nous amène à un deuxième principe, un principe de responsabilisation, de responsabilité. Nul n'a le droit de dire qu'il ne peut pas contrôler la manifestation d'un don, tant dans sa forme que dans son fond. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors, c'est vrai que quand l'Esprit Saint nous anime, quand il nous pousse à parler, il y a des sentiments qui sont forts en nous. Et parfois, nous avons un peu du mal à contrôler le débit de nos paroles, à contrôler peut-être le volume. Bon, c'est la réaction de l'homme, la réaction un peu charnelle. Mais il n'y a rien là qui soit anti-biblique. Mais par contre, penser que par nos actions, par quelques gestes, par quelques façons de faire, nous allons apporter quelque chose au don de l'Esprit, c'est là quelque chose qui peut provoquer des troubles dans l'Église. Et de ça, nous devons nous garder. Donc, lorsque nous prophétisons, nous sommes responsables de trois choses. De la manière dont nous délivrons le message, les tons de voix, les attitudes, les gestuels, de l'esprit dans lequel nous délivrons le message, l'amour, l'édification, mais aussi du message que nous transmettons. Ce que nous apportons de la part du Seigneur doit être en conformité avec les Écritures. Le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose que ce qui est écrit dans la parole. Les prophéties sont en accord avec la Bible. Les prophéties n'ajoutent rien à la révélation de la Bible, mais elle confirme ce qui est écrit. C'est le premier cadre, donc, un cadre rassurant. Et ce cadre apporte une stabilité, un fondement nécessaire lorsque nous touchons aux choses spirituelles. Les choses spirituelles nous dépassent. Et parce qu'elle dépasse notre raisonnement, Dieu veut nous donner des bases solides. Parce que trop d'églises se sont laissées emporter dans toutes sortes de rêveries, comme Paul le dit dans les Colossiens, pour finir par s'écrouler parce qu'ils n'avaient rien pour les soutenir. Je parle d'église, je pourrais parler de famille, je pourrais parler de personnes qui ont même perdu jusqu'à la foi, après avoir été troublés par toutes sortes de phénomènes spirituels. Un cadre rassurant, mais aussi un cadre encourageant et stimulant. Ce cadre ne doit pas être perçu comme un étau. Il doit y avoir un bon fondement, mais il doit y avoir aussi une stimulation, un encouragement, un désir d'exercer les dons spirituels dans l'Église. Chacun est appelé à trouver sa place. Je veux dire des plus expérimentés aux plus débutants, des plus anciens aux plus jeunes. Nous pouvons tous prophétiser successivement. Est-ce que le mot « tous » est écrit dans votre Bible ? Alors vous êtes dans ce mot « tous ». Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, aspirés aux dons spirituels, ce message vous concerne. Et il concerne particulièrement les jeunes gens. Cette jeune génération qui vient, parce que c'est à vous aussi que le prophète parlait, Joël, lorsqu'il disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, dit le Seigneur, sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Vos serviteurs et vos servantes prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et prophétiseront. Le Seigneur cherche, parmi sa jeunesse, des jeunes hommes, des jeunes femmes, remplis du Saint-Esprit, désireux d'être en bénédiction dans l'Église, pour prophétiser en son nom. Ce cadre stimulant, ce cadre encourageant, passe par trois choses. D'abord par l'amour. C'est le premier sentiment qui doit exister dans notre cœur, mais dans l'Église tout entière, l'amour. Car sans amour, ceux qui prophétisent produisent beaucoup de dégâts. Ils n'exercent pas un ministère d'édification, de consolation, d'exhortation, mais souvent un ministère de jugement, si ça existe comme ministère. et surtout de valorisation personnelle. Nous rappelons 1 Corinthiens 13, 1 et 2, Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'amour. Un climat d'amour au milieu de nous. Non pas à nous épier, à nous dévorer, mais à nous aimer. Un climat d'amour va favoriser la manifestation de l'esprit. Et puis la foi. La foi est rendue agissante par l'amour. Il y aura le désir de s'exprimer, poussé par l'amour. L'amour de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, nous allons faire ce pas de foi et porter ces paroles qui bouillonnent dans notre cœur. Le psalmiste disait « Des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Comment retenir ce qui bouillonne ?» Alors nous l'exprimerons parce que nous voulons bénir. Et la troisième chose après l'amour, la foi, c'est l'utilité. Paul écrit dans 1 Corinthiens 14, 6 « De quelle utilité vous serai-je ? Mes dons spirituels sont utiles ou alors ce ne sont pas des dons spirituels. » Si vous faites une lecture de 1 Corinthiens 14 et que vous notez à chaque fois où vous trouvez le verbe édifier, conjugué, ou le mot édification, vous serez surpris. C'est un mot qui revient à plusieurs reprises pour nous parler du but des dons spirituels. Ils sont utiles. Et ça, c'est un mot-clé du prophétisme. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup veulent nous montrer le prophétisme à travers des choses extraordinaires, phénoménales. La Bible est cohérente dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le prophétisme est marqué par l'utilité. On va dire que c'est assez banal, l'utilité. De quelle utilité vous serai-je, dit Paul. Et Jérémie, dans l'Ancien Testament, dénonce les faux prophètes, Jérémie 23, 32, en disant « Ils ne sont d'aucune utilité à mon peuple. » Quand j'aspire à exercer les dons spirituels, c'est parce que je veux bénir, je veux être utile. Je veux exhorter, je veux consoler, je veux édifier, je veux bénir mon frère, ma sœur. C'est ce qui doit animer cette aspiration, cet amour qui est la voie par l'excellence. Alléluia. Voilà le cadre que nous devons former. Voilà l'Église que nous devons former. Un lieu favorable à la manifestation des dons spirituels. Un cadre rassurant, mais aussi un cadre stimulant et encourageant pour que la prochaine fois, jeune homme, jeune femme, mon frère, ma sœur, qu'une de ces paroles bouillonne dans ton cœur, tu ne sois pas en train de la retenir par peur, par méfiance, mais que tu sois là en train de dire « Seigneur, je veux bénir ». Trop de paroles sont tombées à terre. Il est temps de les relever. Il est temps de rentrer dans ce ministère de l'Esprit. Alléluia. Ô Seigneur Père éternel, tant de grâces et de bénédictions que tu es prêt encore à nous accorder. Seigneur, si tu nous ouvrais les yeux, si tu nous donnais les yeux d'Élysée, nous serions certainement en train de pleurer devant toutes les paroles de grâce, les paroles de sagesse, de connaissance, les paroles inspirées, les paroles prophétiques, les dons de foi que tu as voulu donner à ton Église, que tu donnes à ton Église et que nous n'avons pas relevé, mon Dieu, mais que nous avons laissé tomber à terre et nous te demandons pardon. Nous demandons pardon pour toutes les fois où une de ces paroles bouillonnait dans notre cœur et nous n'avons pas ouvert la bouche pour toutes sortes de raisons. Seigneur, je prie pour que notre assemblée et pour que les églises de Pentecôte demeurent des églises où le Saint-Esprit agit, où les dons spirituels sont manifestés. Quelles armes puissantes tu nous donnes là ! Nous ne pouvons pas nous en passer. Seigneur, je prie pour que notre assemblée de Bastille soit un lieu favorable aux dons spirituels. Un cadre rassurant, c'est vrai, mais aussi un lieu d'encouragement, un lieu de stimulation, un lieu où peut-être pour la première fois, des frères, des sœurs, jeunes, moins jeunes, franchiront le pas et commenceront à parler selon l'abondance que tu mets dans leur cœur. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre. nous avons besoin d'une abondance de dons spirituels. Nous ne voulons pas perdre cet héritage. Nous te demandons qu'il reste vivant et puissant et efficace et utile au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes grâces. Donne-nous d'aspirer aux dons spirituels, de les rechercher dans la foi, dans l'amour et dans l'utilité. Et je te prie de faire lever du milieu de nous des prophètes. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia.